La carte Visa Orange Monnaie, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez sur la Radio du Monde, cet appel sur l'actualité. Chaque jour, la rédaction de RFI se mobilise pour vous. Dans 20 minutes, nous ferons ensemble un bilan de deux décennies de règne de Mohamed VI à la tête du Maroc. Il portait un discours et une ambition moderniste. A-t-il été suivi des faits, ce discours? Comment le Maroc a-t-il évolué, selon vous, en 20 ans? Quelle est sa place dans le monde et en Afrique, puisqu'on doit au souverain notamment le retour de son pays au sein de l'Union africaine? Venez débattre au 33 9 693 693 70. On attend aussi vos messages sur la page Facebook de l'émission et sur notre fil WhatsApp 33 6 89 28 53 64. Avant cela, vous en avez l'habitude, vous nous posez vos questions sur l'actualité et nous tâchons d'y répondre au mieux. Le premier auditeur en ligne, c'est Satigui qui est en Guinée-Conakry. Bonjour.
Bonjour François Mazer, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Satigui, vous aviez des questions sur la situation politique en Espagne.
Bien sûr, l'ultime négociation entre Pedro Sanchez et Podemoso a échoué. Le Premier ministre n'est pas parvenu à obtenir l'investiture du Parlement. Comment expliquer cet échec? Pourquoi Podemoso a-t-il refusé de voter sa confiance?
Pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Hubert Pérez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques et spécialiste de l'Espagne à l'Université de Montpellier. Alors les tractations ont été longues entre les socialistes et Podemos et finalement ça a été une fumée noire. Hubert Pérez, pourquoi ces négociations ont-elles achoppé?
Oui, une petite précision d'abord. Les tractations ont été longues si on tient compte du temps qui a passé depuis les élections législatives du 28 avril, mais en réalité, les négociations formelles n'ont commencé que quelques jours, donc très tardivement avant la tentative d'investiture de Pedro Sanchez. La cause immédiate, la cause ultime, ça a été le refus de Podemos d'accepter les postes ministériels dans la composition du gouvernement qu'offrait Pedro Sanchez. Les intentions de Podemos étaient assez importantes. Ils ont par exemple voulu pendant longtemps que Pablo Iglesias, le leader de Podemos, participe lui-même au gouvernement, ce qui était inacceptable pour Pedro Sanchez. Et d'autre part, ils voulaient le ministère du Travail, qui est un ministère extrêmement important, ce que les socialistes ont refusé. Bref, il y a eu un désaccord sur les postes à occuper au sein d'un éventuel gouvernement. Ça, c'est la cause immédiate. Mais en réalité, les projets des deux partis étaient très différents, puisque au départ, le Parti socialiste ne voulait pas de l'entrée de Podemos en gouvernement. Il voulait d'une solution que l'on appelle en Espagne « à la portugaise », c'est-à-dire un gouvernement socialiste monocolore qui serait appuyé au Parlement par Podemos, et donc un accord programmatique ou un accord au cas par cas en fonction des textes qui auraient été votés. Quand Podemos voulait entrer de façon significative au gouvernement en constituant en quelque sorte au sein du gouvernement un gouvernement bis, un gouvernement qui serait là pour orienter une présence de Podemos au gouvernement, qui serait là pour orienter vers des politiques beaucoup plus à gauche que ce qui soupçonne le Parti Socialiste de vouloir à la tête de l'Espagne.
En gros, du point de vue des partis socialistes, Podemos voulait se tailler une sorte d'État dans l'État au sein du gouvernement, pouvoir pousser ses mesures de gauche et laisser aux socialistes tous les dossiers plus techniques comme le budget ou la diplomatie.
Oui, c'est à peu près ça. Le Parti socialiste disait que Podemos voulait constituer un gouvernement à l'intérieur du gouvernement. Ce qui aurait été évidemment très difficile à gérer au jour le jour, ce qui serait également politiquement assez peu compréhensible dans la mesure où le Parti socialiste a obtenu deux fois plus de voix que Podemos et trois fois plus de députés. Donc il y a un déséquilibre dans le rapport de force politique qui, du point de vue du Parti socialiste, interdisait ce type de formule.
Satigui, vous aviez une autre question pour Hubert Pérez.
Bien sûr, quelle option reste-t-il à Pedro Sanchez? Peut-il envisager encore d'être investi comme Premier ministre?
Oui, les choses ne sont pas terminées parce que Pedro Sanchez a encore deux mois environ. Hein, le roi va renouer les discussions, va de nouveau proposer qu'il y ait une discussion entre les différents partis et Pedro Sanchez peut tenter à nouveau en septembre probablement de se faire investir. Alors on ne sait pas si les négociations avec Podemos seront avancées. Pedro Sanchez, par ailleurs, peut tenter d'autres solutions. Il essaye depuis un petit moment, au fond, d'obtenir une investiture à la majorité simple, simplement sans avoir la majorité absolue, pourvu que les partis de droite, ou au moins un des deux grands partis de la droite, s'abstiennent, ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci, puisque lors de la deuxième, lors du deuxième vote d'investiture, ils ont voté contre. Donc, ils pourraient jouer cette carte-là, mais ça semble très mal parti, parce que ces partis ont indiqué qu'ils ne s'abstiendraient pas et qui voterait contre une éventuelle investiture.
Et donc s'il échoue, Hubert Pérez, on va vers de nouvelles élections?
Alors si ça échoue, eh bien, le 23 septembre, il y aura la convocation automatique de nouvelles élections pour le mois de novembre, et ce serait les quatrièmes élections en quatre ans, ce qui fait évidemment beaucoup pour un pays comme l'Espagne.
Est-ce qu'on a une idée de à qui profiterait d'éventuelles nouvelles législatives?
Si on se fie au sondage, le Parti Socialiste serait plutôt en position favorable. On le donne à la hausse par rapport au résultat qu'il avait obtenu aux élections du 28 avril. Mais on se méfie énormément des sondages en Espagne. Alors il y a un sondage très important qui doit être publié aujourd'hui. On en saura un petit peu plus demain, mais les sondages sont plutôt favorables au Parti Socialiste, sans toutefois lui promettre d'obtenir une majorité absolue. Donc de toute façon, de nouveau, le problème d'une coalition se reposerait à l'issue de ces prochaines élections.
Merci Hubert Pérez, professeur de sciences politiques, spécialiste de l'Espagne à l'Université de Montpellier. Et merci à Satigui qui nous appelait de Conakry. Direction Brazzaville maintenant, où nous attend un habitué de l'émission, c'est Davy. Bonjour Davy.
Bonjour François Mazé.
Davy, vous avez appris que la Corée du Nord a procédé à de nouveaux tirs de missiles balistiques et ça vous intrigue. Quelles sont vos questions après ces tirs de missiles?
Oui, François. Malgré la décrispation récente des relations nord-coréennes et américaines, la Corée du Nord vient d'annoncer un nouveau tir de missile en mer du Japon. Quelle est la stratégie de la Corée du Nord derrière ces tirs de missiles?
Alors, on va le demander à Juliette Morillo, qui est historienne, auteure notamment du Monde selon Kim Jong-un. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle est la stratégie après ces nouveaux tirs de missiles nord-coréens la semaine dernière?
Eh bien, la stratégie de la Corée du Nord ne change pas du tout. Elle demande toujours un allègement des sanctions et de poursuivre le dialogue, et notamment ce qui a été mis en route lors de la fameuse rencontre de Panmunjom à la fin du mois dernier, où les discussions devaient reprendre rapidement. Mais il faut quand même voir très rapidement, sans faire un cours de stratégie, la nature de ces missiles. Ces missiles sont des missiles extrêmement difficiles à intercepter, d'une nouvelle nature, puisque, en termes simples, ils vont très très haut, redescendre, poursuivent leur trajectoire à l'horizontale à peu près 20, une dizaine de kilomètres d'altitude avant de piquer sur leur cible. Ça, cette drôle de trajectoire un peu imprévisible, les rend extrêmement difficiles à intercepter. Donc c'est un côté très pied de nez à la défense sud-coréenne. Et d'ailleurs, Kim Jong-un, la Corée du Nord, a bien précisé que c'était un avertissement destiné à Séoul. C'est-à-dire qu'il demande à la Corée du Sud d'être un peu moins dépendante des États-Unis, de se prononcer plus clairement et surtout d'arrêter de faire ce qu'ils appellent des war games, des jeux de guerre, c'est-à-dire que là, en prévision, vous avez des exercices conjoints militaires américano-sud-coréens qui vont avoir lieu, qui miment en gros une attaque de la Corée du Nord par la Corée du Sud et les États-Unis, et la Corée du Nord ne peut pas le supporter, considère ça comme une provocation.
Davy, vous aviez une autre question pour Juliette Morillo.
Oui, comment réagissent les États-Unis alors qu'il s'agit d'un troisième tir en trois mois? Cela peut-il remettre en cause la poursuite des négociations?
Juliette Morillo.
Alors avec Donald Trump, c'est toujours un petit peu compliqué. Donald Trump, lui, a réagi en disant que ça ne mettait rien en danger, que s'il ne s'agissait que de tout petits missiles, donc que c'était pas grave parce que, grosso modo, Kim Jong-un reste son pote. Ceci dit, le reste des Américains et de l'entourage de Trump ne voit pas ça d'un très bon œil, mais en même temps, on va plus vers un contrôle des armes nord-coréenne que vers une dénucléarisation totale. Et je pense que Donald Trump tient à garder la main haute sur quelque chose de positif avec la Corée du Nord, parce qu'il y a les élections quand même qui arrivent. Donc, il soigne son opinion publique.
Et d'ailleurs, Juliette Morillo, vous l'avez un petit peu évoqué, mais Kim Jong-un s'en prend désormais plus volontiers directement à Séoul qu'à Washington.
Oui, parce que Kim Jong-un accuse Séoul d'être un petit peu la marionnette de Washington, et la position du président sud-coréen qui a été le premier vraiment à faciliter, à jouer un rôle de médiateur pour apaiser les tensions entre Pyongyang et Washington, se retrouve finalement dans une situation bien ingrate avec la Corée du Nord qui hausse le ton.
Merci Juliette Morillo d'avoir été en ligne. Et merci à vous David qui est à Brazzaville, où il est 9h21 maintenant, tout comme à Kinshasa où nous attend Regan. Bonjour Regan.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Alors moi c'est François, mais vous pouvez dire bonjour à Sébastien si vous voulez, il est certainement très sympathique. Peut-être que Sébastien Nemeth d'ailleurs nous écoute, on le salue. On va maintenant parler de la situation politique en Russie avec vous, avec ces arrestations d'opposants samedi. 1373 personnes arrêtées précisément lors d'un rassemblement à Moscou pour soutenir la participation de l'opposition aux élections locales dans la capitale russe. Et vous aviez des questions sur ce sujet, Regan.
Bah oui, François, en Russie, plus d'un millier de personnes étaient arrêtées à la suite d'une manifestation de l'opposition interdite par les autorités. Du coup, j'aimerais savoir pourquoi l'avoir interdit quand on sait que les manifestations précédentes avaient été autorisées.
On va poser la question à Daniel Vallot, envoyé spécial permanent de RFI à Moscou. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Alors pourquoi avoir interdit la manifestation de samedi alors que celle de la semaine précédente avait été autorisée ?
Alors d'abord, il y a une grande différence entre les deux manifestations. C'est le lieu qui a été choisi pour la manifestation de samedi, qui était donc interdite. Ce lieu, c'était la mairie de Moscou. C'est évidemment un lieu de pouvoir très important dans le conflit actuel autour des élections locales. Mais surtout, la mairie de Moscou se situe sur l'une des principales avenues de la capitale russe, non loin du Kremlin. Or, les autorités russes n'autorisent jamais de manifestations dans ce secteur, à moins qu'il ne s'agisse évidemment d'événements tolérés ou de manifestations, par exemple, du Parti communiste, un parti qui ne dérange pas les autorités russes au même titre qu'Alexei Navalny et ses alliés. En revanche, la manifestation qui était autorisée, celle de la semaine dernière, s'est déroulée sur l'avenue Sakharov, qui est excentrée par rapport au Kremlin et qui est en général l'avenue proposée par les autorités justement pour tous les rassemblements autorisés. Le problème, c'est que cette avenue, elle est bordée de bureaux, qu'il ne s'y trouve absolument personne durant le week-end et que donc les manifestations qui ont lieu se déroulent comme à huis clos, comme si au lieu de manifester dans la rue, vous aviez réservé une salle pour un meeting. Voilà donc cette différence de lieu très importante entre les deux manifestations, mais il y a eu aussi peut-être une hésitation de la part des autorités russes dans la stratégie qu'il convenait d'adopter face au mouvement de contestation. La presse russe en est fait l'écho. Il semble que les autorités ont été prises de court face à l'ampleur de la mobilisation. Et donc, dans un premier temps, elles ont autorisé ce premier rassemblement. Il y a eu énormément de monde. Et donc, après, dans un deuxième temps, les autorités ont décidé de changer de méthode et de recourir à des méthodes beaucoup plus fermes. Interdiction de la manifestation et déploiement massif de policiers.
Oui, plus de 20 000 personnes pour ces manifestations. Regan, vous aviez une autre question pour Daniel Vallot.
Oui, François. Alors, on sait que l'opposition maintient quand même les manifestations pour les jours à venir. Est-ce que le pouvoir va-t-il finalement autoriser les candidatures indépendantes aux élections locales prochaines ?
Daniel, est-ce qu'on peut imaginer le pouvoir russe plié ?
Alors écoutez, c'est possible, il y a une porte de sortie en tout cas pour le pouvoir, puisque les candidats qui ont été exclus du scrutin ont déposé des recours devant différentes instances et notamment devant la Commission électorale nationale. Les autorités pourraient donc décider de revenir de cette manière sur la décision initiale. C'est possible techniquement, mais politiquement c'est évidemment une toute autre question pour plusieurs raisons. D'abord, les candidats de l'opposition, s'ils entrent au Parlement de la ville de Moscou, pourraient gêner le travail du maire de Moscou, Sergueï Sergueï Sobyanin, qui est un proche de Vladimir Poutine et qui est même parfois présenté comme un possible successeur du président russe. Ensuite, ils peuvent utiliser ce Parlement comme une tribune pour dénoncer la corruption. Enfin, et surtout, il y a le risque en septembre d'une série de défaites dans toutes les régions russes pour les candidats proches du pouvoir, parce qu'il y a aujourd'hui un réel mécontentement de la population vis-à-vis du pouvoir. Et donc, il faut limiter les dégâts. Et à Moscou, l'option qui a été choisie a été plutôt radicale, puisqu'il a été donc décidé d'exclure carrément tous les candidats de l'opposition. Revenir aujourd'hui sur cette décision, ça serait quand même très difficile, d'autant plus qu'avec ce qui s'est passé ces dernières semaines, avec ces manifestations, et bien ce scrutin qui n'intéressait absolument personne autrefois, prend une importance tout autre et une tout autre signification. Voilà, donc en résumé, c'est possible, mais c'est fort peu probable tout de même.
Merci Daniel Valot. Regan, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse de Daniel ?
Bien, merci François, merci beaucoup, merci à Daniel aussi.
Eh bien, bonne journée à vous qui nous écoutez à Kinshasa, direction le Burkina Faso, où nous attend Patrick, bonjour.
Bonjour François,
Patrick,
bonjour à tous les auditeurs des RFI.
À Kourougou, vous avez vibré en suivant le Tour de France 2019, plein de rebondissements qui s'est achevé par une victoire historique, la première pour un Colombien, celle d'Egan Bernal, et qui vous a posé beaucoup de questions.
C'est ça. Le Tour de France vient de se terminer dimanche, comme vous venez de le dire, avec la victoire d'Egan Bernal, premier Colombien et premier Sud-Américain à remporter ce titre. Comment expliquer cette victoire surprise de Bernal au détriment de Julien Alaphilippe, qui semblait bien défendre son maillot? Est-ce que la décision de neutraliser la course l'a plus défavorisé?
Et Frédéric Souto va nous dire ça du service des sports. Bonjour Frédéric.
Bonjour François, bonjour Patrick, bonjour au Burkina.
Alors, est-ce qu'en neutralisant l'avant-dernière étape au sommet du col de l'Iseran, les organisateurs du Tour ont favorisé Egan Bernal aux dépens du porteur du maillot jaune, Julien Alaphilippe?
Oui, alors il faut resituer les choses. Hein. On était vendredi, à deux jours de l'arrivée, et effectivement, Julien Alaphilippe était encore maillot jaune. Hein. Ce maillot jaune, il le portait depuis 14 jours. Mais là, dans le col de l'Iseran, l'une des ascensions les plus difficiles de ce Tour de France, on était à 2300 mètres d'altitude.
Ça a coincé.
Egan Bernal est parti devant et a basculé en haut du col de l'Iseran avec plus de 2 minutes d'avance sur Julien Alaphilippe, qui était un peu en perdition. Et donc, à ce moment-là, virtuellement, il a pris le maillot jaune, Egan Bernal. Et dans la descente, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu un orage de grêle terrible qui s'est abattu dans la vallée entre le col de l'Iseran et Tignes, où devait être jugé l'arrivée du côté de Val d'Isère. Et donc, les organisateurs n'ont pas eu le choix. Les coureurs ne pouvaient pas passer. Les images étaient édifiantes. On avait de la grêle, de la boue sur 10-15 cm. On a mis la pelleteuse avant que les coureurs arrive, mais impossible de déblayer la route. Donc ils ont pris effectivement cette décision de neutraliser l'étape alors qu'il restait encore 35 km et de prendre les temps en haut du col de l'Iseran, où là Egan Bernal avait 2 minutes d'avance. Mais non, Patrick, cela n'a pas faussé le tour, contrairement à ce qu'on aurait pu penser devant notre écran de télévision en se disant « Ah, mais Julien Alaphilippe, dans la descente, il aurait repris du temps ». Peut-être qu'il en aurait repris un peu comme il l'avait fait la veille pour sauver son maillot jaune, mais derrière, il fallait monter tout en haut de la station de Tignes, et depuis 2-3 jours, il nous montrait des signes de grande fatigue, Julien Alaphilippe, et les spécialistes du tour vous diront qu'il aurait sans doute probablement perdu encore plus de temps sur Egan Bernal si l'étape était allée à son terme.
Et d'ailleurs, on l'a vu le lendemain, dans une étape raccourcie, il a de nouveau cédé sur la pente.
Complètement. Dernière étape de montagne, le samedi, du côté de Val Thorens, cette fois. Étape très courte. Et là encore, Julien Alaphilippe n'a pas été capable de suivre les meilleurs. Et il s'est retrouvé, au final, cinquième du général. Il ne pouvait pas faire mieux. Il a porté ce maillot jaune. Il a fait vibrer tous les Français. Vous savez, ce n'est pas un coureur de grande montagne,
de
Julien Alaphilippe,
c'est
un puncher. D'ailleurs, il a gagné la première étape comme ça, quand il a pris le maillot jaune du côté d'Épernay. Il est à sa place et il le sait très bien. Ce qui s'est passé cette année, pour lui, c'est presque inespéré. En revanche, Egan Bernal, on le voyait venir depuis un petit moment. Il avait fait 15e l'an passé, mais c'était le coéquipier de Geraint Thomas, c'était le coéquipier de Christopher Froome, et il faisait partie des grands, grands favoris avant le départ de ce tour à Bruxelles. Il est peut-être même parti pour régner de nombreuses années.
Eh bien, merci Frédéric Souto. On suivra ça, bien sûr, sur les antennes de RFIS, le début du règne d'Egan Bernal. Merci à vous, Patrick, d'avoir été en ligne de Kourougou. Et merci de votre fidélité à RFI.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.